Chapitre 2. Dans lequel un secret est révélé, mais pas au lecteur. Les aiguilles de la pendule d'Ormoulu, qui étaient dans le petit salon occupé par Elinor, ainsi que par sa compagne, son chaperon et dame de compagnie, Madame Morrison, marquaient 8h15, lorsque le petit coupé de Margrave s'arrêta devant sa porte. La position de Margrave n'était point ordinaire. Sa clientèle était nombreuse et surtout honorable au plus haut degré. Elle reposait en partie sur les compagnies de chemin de fer et comprenait des affaires de haute importance. C'était un homme de bonne famille, un parfait gentleman, élégant, habile et accompli. Trop bon pour être avoué, comme chacun disait, mais malgré tout cela, excellent avoué, comme le disaient tous ses clients. Il était encore célibataire à 35 ans. Pourquoi ? Personne ne pouvait le deviner, d'autant plus que pas mal de riches héritières et beaucoup de jolies femmes auraient été très fières de répondre oui à une proposition de mariage faite par Margrave. Mais le bel avoué préférait évidemment sa libre existence de garçon, car si son cœur eût été bien sensible aux attraits féminins, il eût inévitablement succombé dans la société de son adorable pupille. Elinor n'habitait Londres que depuis quelques mois seulement. Elle avait quitté la tutelle de sa tante à Paris pour se lancer dans le tourbillon de la société anglaise, sous le seul abri des vastes ailes d'une dame âgée, choisie avec soin et munie d'instructions nécessaires par la tante et par Margrave. Le monde lui était inconnu et elle sortait du cercle étroit du couvent dans lequel elle avait fait son éducation et de quelques tranquilles coteries du faubourg Saint-Germain que la tante adorait pour s'établir tout d'un coup à Londres comme l'unique héritière de M. Ardenne. Ce fut donc vers Margrave dont elle avait gardé un heureux souvenir d'enfance depuis que le jeune homme, en partie de chasse, avait rendu visite à son père dans les montagnes de l'Écosse, vers Margrave, qui voyait de temps en temps sa tante à Paris et qui lui avait témoigné à elle, jeune fille, toute l'affection d'un frère aîné. Ce fut vers lui seul, qu'elle se tourna pour avoir des conseils et des avis, et elle se soumit à son influence comme si, en effet, il eût été ce tuteur et ce père qu'il représentait selon la loi. Ses joues se colorèrent lorsque les roues d'une voiture s'arrêtèrent sous ses fenêtres. « Maintenant, attention, Madame Morrison, » dit-elle avec un rire sardonique. « Attention, voici mon futur incomparable. Attention au blondin en bottes à double semelle. Ce sera très inconvenant de sa part s'il vient ici en bottes fortes, » répliqua sa protectrice d'occasion. « Monsieur Margrave dit que c'est un si charmant jeune homme. » « Parfaitement cela, ma chère Madame Morrison, un charmant jeune homme. » Son portrait est fait en un mot, un jeune homme. « Oh, mon rêve » murmura-t-elle tout bas. Souvenez-vous que c'était de ce jour seulement qu'elle avait passé le Rubicon de la sagesse et qu'elle ne connaissait point l'autre rive. Elle était encore très romanesque et peut-être très folle. Le domestique annonça « Monsieur Margrave et Monsieur Dalton ». Malgré elle, Elinor leva les yeux pour examiner ce jeune homme pour lequel elle avait conçu un mépris si profond et une haine si injuste. Il pouvait avoir 3 ans de plus qu'elle. Sous le rapport de la taille, ni grand ni petit. Ses cheveux, comme elle l'avait dit sans le savoir, étaient blonds, mais loin d'avoir une vilaine nuance, ils entouraient en petites boucles un front bombé, large, bas, mais hardi de forme. Ses traits étaient suffisamment réguliers, ses yeux d'un bleu foncé. L'expression de sa physionomie était sérieuse, et ce n'était que par occasion qu'un sourire venait se jouer sur ses lèvres fortement dessinées. Placé à côté de Margrave, il était loin de paraître un joli homme. Mais pour un physionomiste, son visage avait les qualités qui manquaient dans celui de l'avoué. La force, la résolution, l'assurance, la persévérance, en somme, toutes les qualités qui font un grand homme. M. Dalton attendait avec impatience le moment qui devait l'amener près de vous, Mademoiselle Ardenne, dit Margrave. Depuis longtemps, il connaissait les clauses du testament de votre oncle que vous n'avez apprises qu'aujourd'hui. Je suis fâchée que Mademoiselle Ardenne les ait jamais apprises si elles lui causent du chagrin, répondit tranquillement le jeune homme. Elinor regarda son visage et vit que les yeux bleus qui plongeaient dans les siens avaient un caractère qui leur était particulier. « Après tout, il n'est pas mal, » pensa-t-elle. « J'ai été folle de me moquer de lui, mais je ne pourrai jamais l'aimer. » Mademoiselle Ardenne, continua-t-il, en s'asseyant sur une chaise, près du sofa sur lequel elle était posée, pendant que Margrève était appuyée de l'autre côté de la cheminée, « Mademoiselle Ardenne, nous nous rencontrons dans des circonstances tellement peu ordinaires qu'il vaut mieux, pour notre bonheur à tous deux, que nous nous entendions immédiatement. Feu votre oncle était mon meilleur ami. Aucun père ne pourrait être plus cher ou plus affectionné des fils qu'il ne l'était. Quel que soit son désir, il doit toujours m'être sacré. Mais j'ai été élevée de façon à ne compter que sur moi-même et je suis fière de dire que je n'ai pas de vœu plus cher que de poursuivre ma carrière sans l'aide de la fortune. La perte de cette succession n'en sera donc pas une pour moi. Si c'est votre volonté de refuser ma main et de garder la fortune à laquelle vous seul avez droit, faites-le. Vous ne serez jamais troublé dans la possession de ceux qui vous reviennent de droit. » Monsieur Margrève, votre avoué et l'exécuteur testamentaire de votre oncle, dressera demain un acte de désistement de ma part pour cette fortune. Et sur un mot de vous, je vous dirai adieu ce soir même. Avant, ajouta-t-il doucement, en jetant un regard ardent sur son charmant visage, avant que mon cœur soit trop profondément épris pour me permettre de rester juste. « Monsieur Dalton, » dit Margrève, regardant avec nonchalance les deux interlocuteurs par-dessous ses épais sourcils, « vous apportez les antiques vertus romaines dans le West End. Vous allez purifier l'atmosphère. »« Dois-je m'en aller ou rester, Mademoiselle Ardenne ?» demanda le jeune homme. « Restez, Monsieur Dalton !» Elle se leva en parlant ainsi et appuya sa main sur le dos d'une chaise comme pour y trouver un appui. « Restez, monsieur Dalton. Si votre bonheur dépend de l'union qui était le désir de mon oncle, qu'il en soit ainsi. Je ne puis garder cette fortune qui n'est pas mienne, mais je puis la partager. Je vais vous avouer, et je sais que votre nature généreuse m'estimera encore plus après cet aveu, que j'ai osé chérir un rêve dans lequel l'image d'un autre avait une part. J'ai été folle, je me suis trompée, j'ai été absurde, comme le sont souvent les jeunes pensionnaires. Le rêve est effacé. Si vous pouvez accepter la fortune de mon oncle et ma propre estime, l'une est à vous de droit, l'autre vous l'avez noblement gagnée par votre conduite ce soir. » Elle lui tendit la main, il la serra doucement, et, la portant à ses lèvres, il la reconduisit vers le sofa et se rassit sur la chaise auprès d'elle. Margrève ferma les yeux comme si le coup qui l'attendait venait de le frapper. Le reste de la soirée se passa lentement. Margrève causa, il causa avec élégance, mais son auditoire était triste. Elinor était distraite, Dalton pensif et Madame Morrison parfaitement stupide. L'avoué réprima deux ou trois bâillements qu'il étouffa derrière un écran brodé, et lorsque la pendule, surmontée d'un paon en or moulu, se cachant derrière des roseaux de bronze, annonça 10h30, il se leva pour partir, et Elinor resta pour méditer sur l'engagement solennel qu'elle venait de prendre sous l'impulsion du moment. « J'ai envie de prendre un cab pour rentrer chez moi, » dit le jeune Dalton lorsqu'ils sortirent de la maison. « Je vous souhaite une bonne nuit, monsieur Margrève. » « Non, monsieur Dalton, j'ai quelque chose à vous dire qu'il faut que vous sachiez et qui, je crois, doit se dire plutôt la nuit que le jour. Si vous n'avez point peur de vous coucher tard, venez dans mon appartement avec moi et fumez un cigare. Avant que vous revoyiez Elinor, il faut que j'aie une heure de conversation avec vous. Sera-ce ce soir? Je vous demande comme un service que ce soit ce soir. » Dalton parut fort surpris de l'insistance de l'avoué, mais s'inclina et dit « Avec beaucoup de plaisir, je suis entièrement à votre disposition. Si je retournais dans mon cabinet, je lirais pendant 2 ou 3 heures. Ainsi, ne craignez pas de me faire veiller tard. » Dalton et Margrève restèrent assis pendant près de 3 heures dans l'appartement de ce dernier. mais aucun d'eux ne fuma de cigare, et quoiqu'une bouteille de madère eût été placée sur la table, personne n'y toucha. Un carafon d'eau-de-vie avait cependant été tiré d'une cave à liqueur, le bouchon était ôté, et un verre placé à côté avait été vidé jusqu'à la dernière goutte. Les horloges sonnaient 2 heures lorsque Margrave ouvrit lui-même la porte à son visiteur attardé. Il s'arrêta sur le seuil et, posant sa main sur le bras de Dalton en l'étreignant avec force, il lui dit à l'oreille « Je suis sauvé alors, votre parole est sacrée !» Dalton se retourna et le regarda en plein visage. Il regarda fixement ce visage pâle, ses yeux baissés et complètement cachés par ses cils et ses noirs sourcils. Les Dalton, du comté de Lincoln, ne sont point d'une ancienne famille, monsieur Margrave, ni d'une famille opulente, mais ils gardent leur serment. Bonne nuit. Il ne tendit point la main en partant, mais toucha seulement son chapeau et salua gravement. Margrave poussa un soupir en refermant les portes, puis il rentra dans son cabinet bien chauffé. Enfin, dit-il, je suis sauvé. Mais alors, j'aurais pu être heureux. Ai-je été prudent ce soir? Ai-je été prudent? Je me le demande. » Il murmura quelques mots en jetant les yeux vers un endroit au-dessus de la cheminée où se trouvaient une paire de magnifiques pistolets et un petit poignard renfermé dans un fourreau d'argent ciselé. Peut-être, après tout, que cette explication était inutile. Peut-être, après tout, que le jeu ne vaut pas la chandelle.